Alors, la première chose, ça va dépendre de son niveau de compétence dans la technologie et son niveau de compréhension. Un débutant qui n'y connaît rien et qui veut acheter quelque chose, il faut lui dire deux choses. Premièrement, tu achètes du Bitcoin. Si tu n'y connais rien, ne va pas t'enfoncer dans des discussions sur Facebook où il y a forcément quelqu'un qui va avoir l'idée de te donner le coin qui va changer le monde. Il va remplacer Bitcoin. Non. Commence par Bitcoin, ça va t'obliger à ouvrir un portefeuille, qui est une bonne étape pour apprendre, et un petit montant.
Bienvenue dans Finary Talk, le podcast qui vous parle de vos finances et vous apprend à mieux investir. Finary, c'est l'appli et le site pour gérer tout votre patrimoine au même endroit. Notre mission, vous permettre d'atteindre vos objectifs en mettant la technologie au service de votre argent. Rejoignez-nous sur finary.com et ensemble, construisons le futur de l'investissement. Pour ce quatrième épisode, nous accueillons Owen Simonin, alias Asher, entrepreneur et vidéaste sur YouTube. Owen est entré dans l'univers des crypto-monnaies en 2016 et a fondé plusieurs entreprises dans le milieu, dont Just Mining. Il nous partage aujourd'hui son immense expérience sur les stratégies de revenus passifs à adopter avec les cryptos. Bonne écoute!
Bienvenue à tous dans ce Finary Talk, quatrième édition. Aujourd'hui, on va parler crypto avec un invité de marque. C'est Owen, c'est Asher, c'est un YouTuber que j'ai découvert comme tout le monde en 2017. C'était un des premiers qui parlait crypto en français. Ça, c'était quand même incroyable. Et donc, voilà, aujourd'hui, il nous fait le plaisir de participer à ce talk. Donc, bonsoir Owen, bonsoir Asher. Comment tu préfères qu'on t'appelle?
Honnêtement, comme ça devient naturellement. C'est vrai que nous, du coup, on s'est rencontrés physiquement sous la casquette Owen avant qu'il y ait la casquette c'est Asher. Vrai. Donc, vraiment, Mounir, on s'en fiche totalement. Tu parles comme ça vient et je pense que c'est le meilleur moyen d'envoyer un bon message à tous ceux qui nous écoutent et finalement de parler de ce qui nous intéresse.
Parfait. Écoute, la discussion, elle sera ouverte. Ce soir, comme tous les talks, on va essayer vraiment de vous donner des insights, on va vous donner notre avis. Owen va surtout vous donner son avis, son expertise sur un sujet qui est la crypto, mais aussi plus particulièrement sur la DeFi. Mais avant de commencer, on va parler de Finary, puisque pour ceux qui ne connaissent pas Finary, on fait des talks, mais on fait surtout une plateforme qui permet de suivre son patrimoine, dont la crypto, en temps réel. Et donc, la grosse actualité de Finary, c'est qu'aujourd'hui, on a sorti notre app. Donc, si vous êtes sur iOS, si vous avez un iPhone, vous pouvez la télécharger dès maintenant en scannant ce QR code. Si vous l'avez déjà fait, envoyez-nous vos avis sur la communauté. On va mettre un lien dans le chat ou sur Twitter, où vous voulez. Et surtout, mettez-nous un avis sur l'App Store. C'est hyper important. Et je pense que, bon, Owen, toi aussi, tu es chef d'entreprise, tu sais à quel point les avis comptent. Donc, c'est voilà, vrai. On a une communauté qui est hyper forte et on a besoin aujourd'hui de votre soutien. Donc, mettez un maximum d'avis. Si vous pouvez rédiger un avis, pas juste mettre des étoiles, c'est encore mieux.
On dirait moi qui demande des pouces bleus dans la vidéo.
Bah ouais.
Mais c'est
je
ça.
Je ne peux pas demander de pouces bleus, malheureusement. Donc, mais c'est
quelle que soit notre position, on n'a pas le choix. Hein. Si tu veux te référencier sur Apple Store et sur Play Store, à un moment, il faut que la communauté joue le jeu. Et c'est pour ça que nous, on se bat encore à demander à certains de nos clients de nous mettre des bonnes notes sur Trustpilot ou ce genre de site.
C'est donc, hyper, hyper important.
Jouer le jeu, c'est un plaisir.
Si on veut que la French Tech continue de son envol, il faut nous soutenir. Donc voilà, si vous pouvez nous mettre un avis, c'est parfait. Surtout, envoyez-nous vos retours. L'application, elle est au tout début. Aujourd'hui, c'est une V1, comme on dit. Il va se passer énormément de choses. On va rajouter beaucoup de fonctionnalités qui sont exclusives à l'application. Donc voilà.
Là, je vois dans le chat, hein, hâte que ce soit sur Android. C'est pour très bientôt sur Android. Hein. C'est en test.
C'est pour très bientôt. D'ailleurs, si vous êtes sur Android, c'est une transition parfaite. Si vous scannez,
t'es très bon.
T'étais pas préparé. Tu peux le confirmer, Owen.
Ah non, je te le confirme, je l'avais pas vu venir, j'ai cru que c'était fait pour moi.
Mais vous pouvez scanner ce code, Owen, tu peux scanner ce code et vous pouvez précommander l'appli Android donc via ce code. Donc, ce que ça veut dire précommander, c'est complètement gratuit et le jour où on va la lancer, on communiquera dessus évidemment, mais elle se téléchargera automatiquement sur votre téléphone et donc vous l'aurez vraiment en tout premier. Et donc voilà, on a déjà fait le tour. Le dernier point que je voulais aborder, c'était notre communauté. Et c'est vraiment quelque chose dont on est fier. Voilà, j'ai envie de le dire. C'est grâce à la communauté qu'on a pu construire Finary. Parce que dès le début, on s'est dit, on veut construire quelque chose qui est simple, qui est utile. Et donc, on a besoin de parler aux utilisateurs. Et donc, cette communauté, c'est un lieu d'échange. On parle de Finary, mais on parle aussi d'investissement au sens large. On parle de tout. ce qui touche à l'investissement, des actions, des cryptos, de l'immobilier. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour, c'est évidemment gratuit. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, FinariHQ, si vous voulez avoir les dernières infos. Donc, on est un peu partout. Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On vient de se lancer sur Instagram depuis d'ailleurs ce talk. Owen, tu nous as ramené plein d'abonnés, c'est top. Mais c'est vraiment la meilleure façon d'avoir les dernières actus. Et voilà, c'est déjà fini pour le petit instant promo. On va passer au sujet du jour, à toi Owen, à la DeFi.
Et au passage, un petit merci, parce que pour le coup, ben, Finari, ça permet de suivre l'intégralité de ses investissements. Et pour le coup, il n'y avait pas beaucoup d'applications qui sont devenues agrégateurs de solutions dans la crypto. Et c'est également la base. Hein. Un jour, tu m'as appelé, tu m'as dit, écoute, on pourrait intégrer Just Mining. Nous, on a une société d'investissement là-dedans. Et Finari fait partie des premiers à avoir dit, les gars, c'est pas juste une connerie. Nous, on y croit aussi. Donc, on y va, on vous intègre. Et mine de rien, beaucoup, beaucoup de nos clients nous disent, ouais, bon, ben, heureusement que Finari l'a fait, parce que Just Mining, il y a la bourse sur son application. Au moins, nous, on peut suivre tous nos placements à un endroit. Donc, merci pour ça. Merci aussi bien en tant que ben, entreprise, parce que tu représentes Finari, je représente Just Mining. Mais merci de ne pas nous avoir pris pour des fous quand on a commencé la discussion, parce que beaucoup l'ont fait, Mounir. Beaucoup l'ont fait.
Bah, écoute, c'était évident. Et bah, je te retourne le merci, le remerciement, parce que ça a été un vrai plaisir d'intégrer Just Mining. On a commencé par les très gros, on a commencé par les Binance, par les Coinbase, mais on s'est tout de suite dit, mais il faut quand même qu'on intègre les gens qui travaillent en France sur la crypto. Il y en a de plus en plus, mais voilà, tu fais partie des pionniers, donc c'est top. Donc si vous êtes client Just Mining, effectivement, vous pouvez connecter votre compte sur Finari. On essaye vraiment de… Voilà, Just Mining a lancé le staking récemment, on va en parler. On essaye d'intégrer toutes ces nouveautés pour que voilà, votre compte Just Mining sur Finari, ce soit vraiment top. Écoute, Owen, on va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet. Le thème aujourd'hui, c'est la crypto. Et donc, ma première question, c'est quoi ton premier contact avec la crypto? Comment tu as découvert ça? À quel moment? Et finalement, comment tu es passé de un novice à un passionné comme aujourd'hui?
Eh bien, écoute, mon tout premier contact, c'est que j'ai toujours tout bidouillé en ligne, les valeurs numériques, les jeux vidéo, les points. J'avais un historique dans le sens où j'avais monté un serveur de jeux vidéo et j'avais compris qu'il fallait vendre des avantages aux gens dans le jeu pour avoir suffisamment d'argent, pour pouvoir payer les frais de serveur, l'équipe qui permet de donner aux gens envie de venir, de payer dans le jeu, bref, créer le cercle vertueux de la création de valeur et de l'entreprise finalement.
Non, mais tu m'as dit que c'était énorme, ça avait pris des proportions.
Ça avait pris des proportions. D'ailleurs, pour la petite blague, il est toujours debout, il va presque avoir 10 ans. C'est un serveur Minecraft qui s'appelle MV Wild, donc c'est une petite fierté quand même. C'était une première ligne, je l'ai lancé, j'avais 14 ans, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose. Depuis, on l'a cédé de personne en personne et il y a un jeune repreneur qui l'a repris récemment. Et on a eu au total 120 000 joueurs, je crois, actifs sur le jeu. Donc c'est modeste aujourd'hui et ça l'a toujours été, mais il y a un moment, j'avais 15-16 ans et ça dégageait plus de 1000 balles par mois, quoi. Donc pour moi, c'était une fortune absolue à l'époque et puis il fallait gérer, puis une équipe de 40 personnes. Bref, c'est là qu'on a compris que c'était peut-être virtuel, mais ça pouvait avoir de la valeur. Et à ce moment-là, petit à petit, je me suis intéressé à cette technologie, j'ai grandi, j'ai passé mon bac, on a structuré tout ça. J'ai dû partir et rentrer en école de commerce, j'avais plus le temps de m'en occuper, donc je l'ai cédé. Et là, je rentre en école de commerce. Un an après, à l'EDEC, premier stage en entreprise dans l'entreprise de mon frère Vivoca, une entreprise qui est dans la reconnaissance vocale. Et puis, ben moi, stage, je lis un papier, il me fait « C'est bizarre, toi, tu as fait des serveurs de jeu, tu vendais des pièces d'or sur World of Warcraft, des cochons sur Minecraft et tu n'as jamais découvert ce que c'était le Bitcoin. En plus, ça monte, ça descend, on peut gagner de l'argent. » Là, il y avait tout là. Virtuel, ça vaut de l'argent, ça va vite, ça va fort. Et… Bref, je me suis intéressé à ça. Et ce qui m'a fait découvrir les crypto-monnaies, et je dois le dire honnêtement, comme beaucoup, beaucoup de gens, c'est uniquement parce que, ben ouais, on m'a dit, tu peux gagner de l'argent, c'est des points, t'as vu ces trucs à la mode et tout. C'est là que j'ai découvert. Et au début, je m'y suis intéressé et j'en ai parlé que pour ça. J'en ai acheté, j'ai bidouillé. Et il y a un moment où j'ai eu un gros déclic, c'est quand j'ai compris la plus-value en fait de la technologie. C'est bien beau de s'envoyer des points en ligne, on sait le faire, et je pense même qu'on peut s'envoyer des points sur Candy Crush finalement. Sauf que j'ai compris comment ça fonctionnait Bitcoin et j'ai compris ce que c'était quand quelqu'un t'en envoie un et que tu le vois dans ton portefeuille. C'est pas une banque, un organisme, une association, un groupe qui te dit bon ben là tu vois 19 sur un compte. C'est pas juste un chiffre que t'annonce une banque et comme tu as confiance en cette banque, tu as confiance en ce chiffre. Non, là c'est la blockchain Bitcoin qui te le dit. Il n'y a pas de mensonge possible, il n'y a pas d'erreur possible. Si tu vois dans la blockchain sur ton compte que tu as un Bitcoin, tu l'as, c'est tout. Et rien que cette notion-là de se dire « Ok, on peut donc échanger sans personne, C'est ce qu'on appelle un échange pair à pair, en fait, hein, de particulier à particulier. C'est d'autres particuliers qui vont sécuriser la transaction. Et tu peux toi-même vérifier ce qu'il y a sur ton compte sans qu'on te dise « Ouais, je te jure, tu les as, fais-moi confiance. » Non, ce n'est pas de l'affichage. Tu consultes la blockchain, l'algorithme lui-même qui te répond comme un robot et qui donc ne te ment pas parce qu'il s'en fiche de savoir qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Tu lui poses une question, il te répond mathématiquement et là, tu te rends compte que « Ok, là, on a trouvé un moyen d'échanger quelque chose et ça peut tout changer autour de nous. » Et là, petit à petit, je me suis enfoncé dans quelque chose qui, tous les jours, je découvre à quel point c'est profond le monde dans lequel on est rentré finalement.
Et donc ça, c'était en quelle année, tu disais ?
2016. Je ne sais plus si c'était 2015 ou 2016. 2016, j'ai commencé à faire des vidéos, donc je dirais un peu avant. Je ne vais pas te mentir, je n'ai pas attendu d'être un expert pour faire des vidéos parce que j'avais vraiment besoin d'en parler. J'avais vraiment besoin de ne pas me sentir tout seul, en fait. Donc,
je dirais qu'on en parlait quand même beaucoup moins à l'époque.
Très, très peu. Et encore, il y a des gens qui étaient là en 2013. Eux, je suis un ancien.
Sur Bitcoin Talk.
C'est ça. Et puis, comme ça a été exponentiel, je suis arrivé très, très tôt. On s'est rendu compte tout à l'heure qu'on était encore très tôt par rapport à ce qu'on va connaître dans 10 ans finalement. Mais il y a des gens qui sont arrivés avant moi et qui me disent « Ouais, toi, t'es un vieux, t'es arrivé en 2015, 2016. Ouais. » Et puis moi, j'ai envie de dire « Attends, toi, t'es arrivé en 2012. » C'était presque une ligne de code le truc, tu vois.
Il n'y avait même pas d'exchange en fait à l'époque hein, pour se les envoyer.
Ouais, c'est ça. Alors, il y avait des petites bidouilles, il y avait des plateformes. Il y a eu, je crois, en 2012-2013, on a commencé à avoir les plus gros. On a eu MTGOX qui, à la base, était une plateforme qui servait à échanger des cartes magiques. Mais bon, les gens qui ont voulu échanger de la crypto, ils se sont dit finalement, tout ce qu'il nous faut, c'est un endroit où les vendeurs rencontrent les acheteurs, ils se mettent d'accord sur un prix et il y a un tiers de confiance qui garantit que l'échange se fasse bien. Ben, la bourse en fait.
Ouais, la
donc
bourse.
Il a fallu créer ça, mais comme c'était un système totalement automatique, il fallait juste se connecter à la blockchain et permettre à des particuliers d'échanger entre eux. Et ça a été le premier gros exchange dont le fondateur a fait parler de lui parce qu'un jour il. Hop, avec la caisse. D'ailleurs, c'est un Français, il vient de Dijon. C'est ça, tant qu'à faire, c'est quand même un truc de fou de se dire que l'un des plus gros échanges, il gérait une grosse partie des flux mondiaux de crypto-monnaies.
Ouais, c'était.
Depuis Dijon, sur son petit site internet, quoi. Comme quoi, on doit commencer avec des.
C'était géré vraiment à l'ancienne, ouais. C'était. Et donc là, aujourd'hui, juste pour resituer pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as une chaîne YouTube sous le nom de Hacher, mais tu es aussi chef d'entreprise. Et donc, ta boîte, c'est Just Mining. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que vous faites et comment tu es arrivé à Just Mining ?
Tout à fait. Alors, moi, je vais parler principalement de Just Mining parce que c'est la boîte que je représente en tant que CEO, finalement. Mais en fait, on est un petit conglomérat d'entrepreneurs dans lequel il y a une dizaine d'entreprises et on a un peu moins de 90 personnes à temps plein aujourd'hui sur ces différentes structures. Just Mining faisant partie des plus grosses structures du groupe. Et pour le coup, on est 24 ans.
Voilà, tu dis ça quand même, tu es très humble, mais tu as 24 ans, 90 personnes, c'est une belle PME, hein. Il faut quand même le…
C'est ça. Après, c'est vrai que c'est un bon groupe, on a un homme clé, et puis c'est vrai que Just Mining aujourd'hui, c'est 30-35 personnes, mais ça ne représente pas tout le groupe, mine de rien, parce que mon frère, lui, c'est Vivoca, c'est à peu près une trentaine de personnes aussi, et ils sont dans la reconnaissance vocale. Donc, je ne suis pas tout seul à tenir ce 90 personnes finalement. Et on est quand même très fiers de tout ça parce qu'on a appris beaucoup de choses, on continue à apprendre et on a encore plus envie d'apprendre, plus on a de visibilité et de compréhension de cet écosystème. Mais non, là où on en est très fiers, c'est qu'aujourd'hui, de mon point de vue et pour zoomer un peu sur l'activité que je fais, j'ai deux structures. C'est une structure qui fait du marketing et qui fait en gros, je vulgarise et j'explique des projets très compliqués de la crypto-monnaie pour des débutants, mais également pour des investisseurs. C'est l'un de mes métiers à travers la H Consulting qui représente ma chaîne YouTube et tout plein de différents canaux marketing. Et de l'autre côté, la société que je développe et que j'ai vu naître, en fait, finalement, puisque c'est ma première structure, c'est mon premier cabis, c'est Just Mining. On est un peu plus d'une trentaine aujourd'hui. Et Just Mining, aujourd'hui, ça gère à peu près 400 millions de dollars d'assets under management. Donc, c'est devenu une belle entreprise. Et maintenant, on commence seulement à être suffisamment structuré. On en parlera. Il y a eu la régulation, etc. Et là, on va commencer à vraiment parler de vrais beaux volumes, de vrais beaux montants. Et commencer à faire un métier de gestionnaire d'actifs numériques, finalement.
Génial. Bah, écoute, c'est une transition parfaite. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, l'investissement. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui débute en crypto, tu lui conseilles quoi comme allocation ? On parle souvent de 1-2% en crypto. Comment tu abordes le sujet ?
Alors, la première chose, c'est que ça va dépendre de son niveau de compétence dans la technologie et son niveau de compréhension. Un débutant qui n'y connaît rien et qui veut acheter quelque chose, il faut lui dire deux choses. Premièrement, tu achètes du Bitcoin. Si tu n'y connais rien, ne va pas t'enfoncer dans des discussions sur Facebook où il y a forcément quelqu'un qui va avoir l'idée de te donner le coin qui va changer le monde, il va remplacer Bitcoin. Non. Commence par Bitcoin, ça va t'obliger à ouvrir un portefeuille qui est une bonne étape pour apprendre, et un petit montant ridicule. Alors, ce petit montant ridicule, c'est vrai que si tu gagnes 50 000 euros par mois, ça ne va pas être le même que si tu es étudiant, on est d'accord. C'est un montant qui est ridicule, non significatif vis-à-vis de toi, ta position, ce que tu es, ce que tu fais dans la vie, le risque que tu peux te permettre de prendre, parce qu'il faut partir. Voilà, c'est ça. Tu ne jamais investir le moindre euro que tu n'es pas prêt à perdre. Plus tu composes, plus tu te rends compte qu'il y a des crypto-monnaies plus ou moins risquées, plus ou moins volatiles. Mais quand tu commences, en fait, j'ai presque envie de te dire, les 20 ou les 30 premiers euros que tu vas mettre, ce serait presque une bonne leçon que tu sécurises pas un de tes comptes et contre les vols. Et que tu dises, bon, ok, là, j'ai appris quelque chose. Maintenant, je vais mettre 200 euros. Par contre, je vais arrêter de mettre le nom de mon chien avec ma date de naissance en mot de passe. Je vais comprendre qu'un mot de passe, ça suffit pas, qu'il faut mettre un double authenticator, donc un mot de passe de plus, une double check-up par email, par exemple. Mais c'est, en fait, ce qu'il faut et ce qui est très important, c'est faire le premier pas de façon modeste. Si vous tombez, vous devez vous-même vous dire, écoute, j'y vais pour comprendre ce monde. Et petit à petit, vous allez commencer à bidouiller, vous allez commencer à vous sentir plus à l'aise. Alors, il faut faire attention parce que premier jour, on est effrayé. Au bout d'une ou deux semaines, on a l'impression qu'on a tout compris. On connaît tout, on est dans les groupes, on parle à tout le monde. Là, c'est l'excès de confiance. Tu sais, l'effet Dunning-Kruger, tu vois, c'est ce moment où en quelques jours, tu es passé d'un truc que personne ne comprend. Hein. C'est bon, moi, je suis à l'aise. J'ai un compte ici, j'ai un compte sur Binance, un compte sur Just, je maîtrise tout. Non. Là, c'est la prise de confiance. Et c'est à ce moment-là que petit à petit, tu vas te renseigner, tu vas découvrir qu'il y a le Bitcoin, mais il y a d'autres crypto-monnaies. Ces autres crypto-monnaies reposent sur d'autres technologies blockchain qui ont plus ou moins le même fond, mais qui ne fonctionnent pas de la même façon. Et là, tu peux t'amuser à passer du Bitcoin à deux, trois grosses crypto-monnaies. Je les regarde du coup, Ethereum, pourquoi pas du stablecoin, des crypto-monnaies qui sont adossées au dollar, donc des crypto-monnaies, donc des monnaies qui sont bien basées sur la blockchain, mais qui ne sont pas volatiles comme le Bitcoin, qui vont s'adosser à l'euro ou au dollar. Et petit à petit, tu commences à comprendre les différents fluides qu'il y a dans ce monde-là et à composer avec, si tu veux.
Très clair. Et du coup, tu as abordé un sujet qui est hyper important, je pense. C'est assez marrant parce que tu parlais des exchanges. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal qu'on aille trader sur un exchange centralisé, une monnaie qui est fondamentalement décentralisée, et ensuite qu'on laisse ces cryptos… D'ailleurs, Just Mining est centralisé, évidemment.
Tout à fait.
Donc, c'est quoi tes conseils par rapport à ça? Comment on sécurise peut-être 200 euros, mais peut-être que demain, ça va être 2000, 20 000, 100 000 euros. Comment on sécurise ces cryptos? C'est quoi ton conseil là-dessus?
Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est il y a la CeFi, Centralized Finance, et la DeFi, Decentralized Finance. Un exchange, c'est un endroit où vous pouvez échanger. Je n'ai même pas dit centralisé ou décentralisé, mais là où tu as raison, c'est qu'on peut passer par des plateformes centralisées et on peut passer par des plateformes décentralisées. La première chose à comprendre, c'est qu'il y a les gens qui disent « Ouais, le monde de la décentralisation, sans tiers, sans banque, sans… va mourir et sera remplacé par les cryptos. » Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, les deux mondes doivent exister. Le problème de la centralized finance, c'est qu'il y a une banque qui, sur un bouton, ils peuvent te bloquer ton compte, ils peuvent te bloquer ta carte. Je ne dis pas qu'ils vont le faire. Moi, j'ai une très bonne relation avec ma banque, ça se passe très bien. Et surtout, nous, on est dans un pays développé, tout va bien, on a une banque, on va en plein milieu d'Afrique centrale, demande-leur ce qu'ils pensent de la banque. Ils vont dire, ouais, donne-moi du liquide, c'est moi qui vais la faire, ma banque, tu vas voir. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certains, c'est une façon d'évoluer les choses. Pour d'autres, c'est une façon de révolutionner les choses parce qu'ils vont avoir accès à des outils qu'ils n'avaient pas. Grâce à un téléphone et Internet, tu envoies de la valeur à l'autre bout de la planète. Déjà, il faut comprendre ça. On n'a pas tous le même rapport à la finance centralisée et décentralisée. Ensuite, moi, je conserve mes crypto-monnaies de façon décentralisée et c'est tout de suite ce que je vais expliquer. Par contre, ça ne me dérange pas du tout d'aller sur une plateforme centralisée pour faire un échange plus rapide. En fait, tant qu'on a confiance en ce tiers, on peut l'utiliser. Mais déjà, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Donc, même quand je centralise, ben, j'ai différents acteurs. Je conseille même à certains de mes clients qui ont beaucoup, beaucoup d'argent de dire, écoutez, décentralisez, utilisez deux ou trois plateformes. Et c'est très important de prendre… Je pense même que c'est un réflexe et une façon de penser quand on est un investisseur.
On se doit.
Pas que dans la crypto, dans tout. C'est très, très important. Et donc, ça, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, c'est que tant que vous passez par une plateforme centralisée, je prends l'exemple de Coinbase pour changer un peu, eh bien, la clé privée, on va dire le mot de passe final sur laquelle est la crypto-monnaie, c'est sur Coinbase. Coinbase a un gros portefeuille et ils savent qu'ils doivent 250 euros de Bitcoin à Mounir, 350 euros de Bitcoin à ON. Et donc, ils vont échanger avec Mounir. Des fois, ils proposent moins de frais que la finance décentralisée, je dis bien des fois. Et là, ils disent, voilà, nous, on peut te permettre d'échanger et ça connecte des gens, ça permet d'être très rapide, ça permet d'avoir accès à plein d'opportunités, mais on reste centralisé. Et à ce moment-là, le plus important, c'est de se dire, OK, c'est centralisé, Mais à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment utile? Le gros problème, c'est quand on est face à un tiers de confiance centralisé et on se dit, mais en fait, il est inutile, il ne sert à rien. Pourquoi je ne passerai pas par un autre particulier? Là, c'est dangereux. Là, il faut peut-être s'en détacher. Et donc, c'est pour ça qu'avec Just Mining, on se dit, OK, on est un tiers de confiance, on le sait. Déjà, on éduque nos clients, dès qu'il y a de l'argent qui dort, la retirer sur leur propre clé privée, leur propre compte à eux, et j'y viens tout de suite. Mais en attendant, il y a plein de façons d'arriver à vos objectifs, il y a plein de façons de réaliser vos échanges, et c'est quand on pèse les inconvénients et les avantages qu'on finit par se dire, OK, moi, pour le coup, je vais utiliser la finance centralisée ou décentralisée pour faire X ou Y action. Alors, comment ça marche si vous voulez vraiment garder vous-même votre crypto-monnaie? Quand vous ouvrez un compte, la blockchain, elle vous donne deux choses. Déjà, on dit ouvrir un compte, mais vous vous connectez à la blockchain et vous allez avoir deux choses. Une clé publique, d'accord? On imagine que ta clé publique, Mounir, c'est 33 27 28 9 2. Je ne sais pas que c'est toi derrière. Mais toi, tu le sais. Et tu peux me donner cette adresse pour que je te paye. À ce moment-là, je vais savoir que c'est toi. D'accord? Et tu pourrais très bien régénérer une nouvelle adresse à chaque transaction pour que je ne puisse jamais te tracer finalement.
C'est gratuit.
Par contre, ça, c'est totalement gratuit. Tu peux le faire. Et indirectement, ça peut arriver qu'il y ait des plateformes centralisées qui créent un compte pour toi finalement. Parce que quand tu arrives sur Binance, c'est eux qui gèrent ta clé privée, donc c'est eux qui gèrent ton argent, mais tu te rends compte qu'ils créaient bien un compte par utilisateur pour s'y retrouver finalement. Par contre, c'est eux qui gèrent les clés privées, évidemment. Par contre, si n'importe qui peut voir cette adresse, hein, moi-même, hein, je peux prendre ta clé publique, regarder l'adresse, voir que mes 250 euros sont arrivés, et tant mieux d'ailleurs. Parce que si tu me dis, Owen, tu as envoyé l'argent, elle n'est pas arrivée. Je vais dire, écoute, Mounir, c'est la blockchain, ça ne ment pas, tu vois. Pas d'erreur possible, c'est bien l'adresse que tu m'as donnée. Oui, mais regarde dans la blockchain, l'argent y est, pas d'erreur possible. Et à ce moment-là, toi, pour dépenser cet argent, si tu veux l'avoir, la blockchain te laisse le faire gratuitement. Si tu veux dépenser, la blockchain va dire, OK, par contre, pour dépenser, il faut que tu me montres la clé privée, le mot de passe que j'ai donné au créateur de cette adresse au moment où il a utilisé pour la première fois. Et là, normalement, si c'est toi, tu es censé l'avoir. Le problème, c'est que c'est un mot de passe. C'est une grosse file de caractère. Tu conviens que le laisser dans un bloc-notes sur ton bureau, c'est pas génial. Et puis là, pour le coup, je prends cette adresse, je parle à la blockchain va me parler comme si j'étais toi. La blockchain considère que celui qui a la clé, c'est le propriétaire, point barre. Tu ne peux pas appeler ta banque, ouais, mais vous comprenez, il y a eu un malentendu. Non, pas de malentendu. Tu n'avais qu'à protéger ton mot de passe. C'est pour ça
qu'il y a personne que tu peux appeler personne. Enfin, il n'y a pas de support, il n'y a pas d'entreprise.
Pas du tout. Tu as un mot de passe, à toi de le protéger. Et c'est ce qui fait aussi, et je te prends un exemple paradoxal, le fisc qui vient, ils veulent prendre l'argent qu'il y a sur ton compte. Tu ne donnes pas ta clé, tu ne donnes pas ta clé. Alors évidemment, s'ils ont réussi à te prendre la main dans le sac, c'est qu'ils suivent tes adresses, ils savent qui tu es et ils savent qui est derrière ces adresses. Ils vont dire, attends, il y a cet argent. Oui, mais tu peux dire, écoutez, tant que je ne vous la donne pas, je ne vous la donne pas. Contrairement à ta banque ou autant que de te dire que si tu fraudes, ils peuvent prendre dans ton… Ça déjà, c'est une chose. C'est vraiment, c'est ton argent, c'est à toi. Après, à toi d'être un citoyen modèle ou pas, ça ne me regarde pas. Mais pour le coup, on ne peut pas, personne ne peut, sans te prendre ta clé privée, accéder à tes fonds. Déjà, c'est quelque chose d'assez fou. La deuxième chose, c'est que tu peux protéger en fait ton mot de passe. Ça, c'est une clé Ledger. Il y a également plein d'autres clés. Il existe SafePal que j'aime beaucoup. Il existe des Cool Wallets Trésor, qui sont des petites cartes.
Cool Wallet.
Trésor, il y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein. Et en gros, qu'est-ce que ça fait? Ben, en fait, ça sécurise votre mot de passe. Je donne un exemple très simple. Ton mot de passe à toi, c'est 294. J'aime bien attribuer des chiffres. Eh bien, toi, au moment de payer, la blockchain va dire « montre-moi le mot de passe ». Et toi, tu dis « attends, je n'ai pas envie de te le montrer. Si je te le montre, je vais le mettre dans mon ordi. Si je le mets dans mon ordi, il pourrait y avoir un virus. » Alors, en gros, tu dis à la blockchain, tu lui proposes un challenge. Tu lui dis « écoute, donne-moi une équation à résoudre que seul le propriétaire de cette clé publique, en gros, seule la personne qui a le mot de passe 294, peut résoudre. » Et la blockchain, elle t'envoie quelque chose. Tu résous et tu montres à la blockchain en disant « voilà, je ne t'ai pas montré mon mot de passe parce qu'il est resté dans la clé, chiffré. » Par contre, je t'ai prouvé que seule une personne qui détenait ce mot de passe pouvait faire ça. Et ça te permet, en connectant ta clé, de faire des transactions sans jamais finalement exposer ta clé privée au grand jour et en limitant au maximum les personnes qui peuvent te voler tes fonds. Ça, c'est le niveau maximal de sécurité. On dit que c'est un hardware wallet, parce qu'il y a un hardware, mais on dit aussi que c'est un cold wallet. Quand on dit que c'est un hot wallet quand il est sur l'ordi, tu es tout le temps connecté à Internet, un virus peut rentrer. Là, quand j'ai fini de faire des transactions, je débranche ma clé, on ne peut rien faire. Et je vais même te dire mieux, sur mes clés où j'ai beaucoup d'argent, j'ai mis ce que l'on appelle des multi-signatures. En gros, si tu veux dépenser un petit montant, ça passe. Si tu veux dépenser un gros montant, il faut qu'il y ait soit mon père, soit mon frère, soit un cousin, soit un associé à moi qui vienne et qui vienne confirmer. Je les appelle en disant, écoute, je viens de faire une transaction, confirme, c'est bien moi. Et du coup, bah, si un jour quelqu'un vient devant moi en mode donne-moi tout ce que tu as, je lui dirai, ah, pas possible. Là, ça ne va pas être possible comme ça, c'est une procédure. Voilà, et je me suis moi-même bloqué finalement. Tout comme tu peux dire à la blockchain, si je n'accède plus du tout à mon compte pendant 4 ans, considère-moi comme mort et envoie tout ce que j'ai à cette clé publique. Et tu peux pinguer vers ton frère, en fait, par exemple. Exactement. C'est des idées. Parce que la blockchain, comme c'est un algorithme, lui, il va te dire tu es le propriétaire, donne-moi des conditions, moi je respecte tes conditions. Par contre, attention, si tu n'as pas ta clé pendant 4 ans, et que tu réponds plus et que tu te connectes pas, bah là, personne, si sauf toi, peut intervenir pour dire finalement, mon frère, j'ai pas envie qu'il récupère tout.
Parce que ça, c'est un point hyper important. Aujourd'hui, il y a, je crois que la stat, c'est quelque chose comme 15% des bitcoins qui sont considérés comme perdus. Donc en fait, les gens, les propriétaires ont perdu l'accès à cette fameuse clé privée. Et donc là, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Cet argent, ils pourront jamais le récupérer.
Et c'est normal, sauf parce qu'ils retrouvent cette clé.
Et c'est normal, c'est ça la sécurité de la blockchain finalement.
C'est ça, et on voudrait pas qu'alors on voudrait évidemment qu'ils puissent récupérer leur Bitcoin, bien sûr. Mais ce qu'on veut, c'est que tu as un mot de passe. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était pas assez clair. Maintenant, c'est la première chose qu'on te dit, protège ta clé, fais attention. D'ailleurs, quand tu installes ton hardware wallet, on te donne des mots que tu dois généralement, tu les coupes en deux, tu donnes 10 mots à quelqu'un de ta famille, 10 mots à quelqu'un d'autre. Si tu casses ta clé, tu as besoin des mots pour régénérer ta clé et l'argent qu'il y a dessus. Parce qu'on te dit attention, puis il y a des gens, ils mettent les mots dans la même boîte. Je fais, mais attends, il y a un incendie chez toi. Tu sors parce que tu ne veux pas brûler. Bah, si tu as mis les mots avec ta clé, bah, c'est stupide.
Ouais, donc, c'est foutu,
garde ta sauvegarde. Et en gros, c'est naturellement, comme tout devient décentralisé, on veut être sa propre banque. Et donc, tu as la responsabilité d'une banque elle-même. Elle doit protéger l'argent. Elle doit faire en sorte que quand on arrive à l'accueil, on ne puisse pas, avec un fusil, vider tous les coffres. Et tu finis par dire, ok, ça fait un peu peur, mais finalement, si tu veux être ta propre banque, bah, tu as la responsabilité d'un banquier, tout simplement. Tu veux faire ta propre finance, bah, tu vas devoir avoir les mêmes mécanismes que la finance. Donc, ça peut paraître barbare, mais quand tu comprends tout, bah, déjà, tu comprends un peu mieux la finance traditionnelle. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a deux, trois trucs qui tournent peut-être pas comme ils devraient tourner. Après, je suis pas là pour pointer quoi que ce soit du doigt. Et ensuite, tu dis, bon, il y a des choses dans la crypto-monnaie, il y a du bon, il y a du mauvais, et le tout serait d'arbitrer pour essayer d'améliorer certaines choses.
Exactement. Et d'ailleurs, l'entreprise que tu as citée qui s'appelle Ledger, qui est un peu le leader sur ce domaine-là, est française.
Tout à fait.
Donc, encore une fois, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que Ledger, c'est vraiment la référence. Mais concrètement, moi, on me demande souvent à partir de quel montant il faut avoir un Ledger. Donc, moi, j'ai pas de montant en tête. C'est juste que si vous voulez être sérieux en crypto, je pense qu'il faut avoir un Ledger ou un hardware wallet parce que c'est la première fois que vous allez, comme disait Owen tout à l'heure, contrôler votre argent parce que vous allez pouvoir envoyer. Owen peut m'envoyer 10 millions d'euros en Bitcoin. Personne ne pourra rien y faire. Ce sera entre nous. Et ça sera aussi enregistré sur une blockchain. Et c'est assez. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dedans. Et comme tu as dit, c'est un peu compliqué au début. Ça fait peur parce que quand on envoie des transactions, on se dit bah voilà, si j'ai mal rentré l'adresse, bah c'est fini. En fait, l'argent est parti. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend.
Donc, c'est ça. Alors, pour répondre à cette question-là, il existe des hardware wallets. Je crois que SafePile, c'est 25$. On est sur 22 euros.
Aujourd'hui, le coût, je pense, n'est plus un
sujet. C'est ça. Après, oui, les dernières Ledger, les plus performantes, oui, voilà, sont à 120$. Si tu as 30$, laisse-les sur ton navigateur. Je vais même te dire, si tu te les fais voler, ce serait une leçon. Et en réalité, tu as des moyens de les sécuriser. Tu as des moyens de mettre des bons mots de passe, tu as des moyens d'être sûr que ton ordinateur est plutôt clean. Donc voilà. En attendant, dès que tu commences à dépasser quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, pour moi, c'est juste impensable de ne pas utiliser de sécurité comme celle-ci.
Exactement. Top. Écoute, on va parler de la DeFi, qui est finalement une évolution de la crypto. Pour toi, ça veut dire quoi, DeFi ? Déjà, c'est financé centralisé, mais est-ce que tu peux nous l'expliquer en des termes simples ?
Alors, la DeFi, c'est dès qu'on va pouvoir, grâce à la blockchain, donc grâce à des solutions de particulier à particulier, fournir un service qui était fourni par la finance, mais qui était centralisé à l'époque. Les prêts et les emprunts, c'est de la finance. Si tu arrives à prêter et à emprunter de l'argent à la blockchain, c'est de la finance décentralisée. L'assurance, actuellement, tu parles à une entreprise, tu prêtes de l'argent, puis si tu as un pépin, tu es couvert. Ben, le jour où tu arrives à prêter de l'argent à la blockchain et en cas de pépin, tu es couvert par la blockchain, ça, c'est de la DeFi. Alors là, je prends des exemples, tu as l'assurance, tu as les échanges. Ensuite, tu as le trading carrément, échanger. Actuellement, si je veux échanger avec toi, on va tous les deux se connecter à Binance, tu vas vendre, je vais acheter. Mais je peux également parler à la blockchain et lui dire, bon, moi, je veux vendre des bitcoins contre ci. Et la blockchain pourrait bien me dire, bon, Bitcoin, mauvais exemple en l'occurrence, c'est plus Ether, le leader dans la finance décentralisée aujourd'hui. Mais toi, tu pourrais te connecter à la même blockchain et dire, moi, ce que je voudrais, c'est changer des BNB en Ether. Et boum. Et à partir du moment où tu arrives à faire un échange en ne dialoguant qu'avec un algorithme, eh bien, c'est ce que l'on appelle de la finance décentralisée. Si c'est bel et bien un service financier, un échange, c'est de la finance. Une assurance, c'est de la finance. Un jeu vidéo, ce n'est pas forcément de la DeFi. Pourtant, tu peux interagir avec d'autres personnes de façon décentralisée. Donc, il y a ces entre-deux. Mais voilà, ce qu'on définit par DeFi, c'est un service financier quelconque, mais dans lequel on ne passe pas par un tiers de confiance, tout simplement.
Hyper clair. Et du coup, tu as parlé des services qu'on pouvait, des services traditionnels qu'on retrouve dans la DeFi. Il y a un des services qui est le prêt et l'emprunt qui permet de générer finalement de placer ces cryptos et de générer du revenu passif quelque part. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne?
Alors, le lending et le borrowing, donc les prêts et les emprunts crypto. Là, c'est un petit peu plus délicat et c'est ça qui est intéressant. Généralement, plein de gens déposent leur argent à la banque. Quelqu'un a besoin d'emprunter. La banque vient, elle prend des garanties, ta voiture en caution, ta maison. Elle te connaît, elle te fait confiance ou non. Ça peut être un peu discriminatoire. Elle peut considérer que tu n'as pas le niveau, on ne te fait pas confiance, donc non, on ne prête pas. Et là, elle va te dire, OK, moi, je veux bien te prêter de l'argent. C'est ce qu'on appelle un prêt sans collatéral. Ou alors, le collatéral, c'est ta maison. Le collatéral, c'est le truc que tu mets en caution. Tu sais, là, ça peut descendre et tout, comme dans les fêtes foraines, tu sais. Et s'il y a un problème, on peut venir saisir pour se rembourser. Et là, ça va te prêter de l'argent, te permettant de te développer et puis permettant également de développer ton entreprise, te lancer, etc. Parce que le prêt n'a pas que du mauvais s'il est bien encadré finalement.
Bien sûr.
Et donc, bah, ils sont sûrs que tu vas rembourser tous les mois petit à petit et te permet de réaliser ton projet. En l'occurrence, la blockchain, elle, c'est un peu plus compliqué à comprendre parce que tu parles à un algorithme. Il y a des gens qui prêtent à cet algorithme et il y a des gens qui empruntent. Naturellement, ce que la blockchain, imaginons que tu déposes de l'Ether sur un algorithme de finance décentralisée, il va te dire, voilà, moi, je peux te rémunérer à hauteur de 4% par an. Et naturellement, la blockchain, elle va dire, moi, je prête des Ethers à 5% parce que je les paye à 4% à ceux qui me les donnent. Alors, je veux bien les prêter, mais plus cher. Et ensuite, le mécanisme qui est un peu complexe, c'est d'être sûr que les gens à qui on prête reviennent. Et ça, c'est un mécanisme de collatéralisation parce qu'il y a naturellement des gens qui vont te dire, bon, ben, si tu veux pouvoir m'emprunter 50, moi, je dois être sûr que tu reviennes. Alors, il faut que tu me prêtes au moins plus. Sauf que ben, quand tu es dans le Bitcoin, par exemple, tu n'as pas envie de vendre ton Bitcoin. Tu es sûr qu'il va prendre de la valeur. Par contre, aujourd'hui, aller payer son pain en Bitcoin, c'est encore un peu compliqué. Alors, on va te dire, bon, tu déposes un Bitcoin sur une plateforme de finance décentralisée. Ça fait, on va dire, 60 000 $. Et la blockchain, elle te dit, OK, tu as déposé 60 000 $. D'ailleurs, je te rémunère, hein, 2, 3, 4% parce que tu les as déposés. Et en échange, je t'autorise à emprunter 40 000 $. Pas autant que ce que tu as prêté, mais là, pour le coup, je te fais confiance. Je sais que tu vas revenir parce que j'ai 60 000 $ à toi, alors tu ne vas pas te sauver. Et à ce moment-là, ben, ça te permet d'emprunter 40 000 $. Et avec tes dollars, là, tu peux vivre tous les jours. Si le Bitcoin fait x2, là, tu vas rembourser tes 40 000 $ parce que tu es très intéressé par récupérer ton Bitcoin. Mais la blockchain pourra te dire, d'ailleurs, le Bitcoin a fait x2, je te permets d'emprunter 2 fois plus si tu veux. Et oui, j'ai beaucoup plus confiance en toi. Ben, c'est comme ça que finalement, en fait, on parle à un algorithme, un gros sac avec de l'argent dedans finalement. Et dans cet algorithme, tu as des gens qui viennent, qui empruntent et ils ne se rendent pas compte, mais en fait, ils se prêtent et ils empruntent entre eux. Mais la blockchain, c'est le garant qui vient vérifier que tout le monde paye bien sa dette, qui vient vérifier qu'on prête toujours un peu plus cher que ce que l'on emprunte aux gens, ce qui fait que l'algorithme est rentable. La rentabilité, le fait que l'algorithme est rentable, ça va permettre de payer des bonus à ceux qui viennent prêter, ceux qui viennent emprunter et ceux qui viennent aussi mettre à jour le code, le protocole. Et donc, c'est un peu le cerveau qui fait que tout cet écosystème est profitable et que tout le monde respecte bien ses engagements. Et finalement, on se prête, on emprunte entre nous sans passer par aucun tiers de confiance, même si mine de rien, on fait confiance à un algorithme dont le code est transparent et dont n'importe qui peut venir investiguer les différentes lignes.
C'est assez compliqué d'auditer des codes. Et d'ailleurs, c'est assez marrant puisqu'il y a régulièrement des hacks. Enfin, ce n'est pas marrant pour ceux qui perdent, évidemment. Mais c'est quand même un écosystème qui est très jeune. Donc, les nouveaux protocoles sont plus rémunérateurs parce qu'ils sont aussi plus risqués.
Eh bien, donc, écoute, excuse-moi, je te permets juste un petit truc là. Pour te dire à quel point c'est compliqué d'expliquer la DeFi en 2 minutes, j'ai fait 4 vidéos d'une heure chacune. Qu'est-ce que le prêt et les emprunts? Qu'est-ce que les assurances décentralisées? Comment est-ce qu'on peut, avec une assurance, assurer ses prêts ou assurer ses emprunts en cas de hack dans le protocole? Donc, il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose de très large, de très complexe et de très nouveau. Mais
qui
si
évolue,
on y va,
qui
en plus évolue, et puis à un rythme où il y a un an, on parlait de lending et borrowing, c'était un peu compliqué. En 2015, on en parlait, c'était inexistant, quasiment inexistant. Donc, il faut bien comprendre que non seulement ça va vite, et en plus, ça accélère. Voilà, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, j'ai perdu tous mes bunnies sur la BSC. On parle d'une blockchain encore plus jeune qu'Ether, sur un protocole encore plus jeune que la blockchain elle-même. Quelqu'un qui a tout mis dessus sans s'assurer, bah, il doit accepter ce genre de risque, naturellement.
On va passer aux questions tout à l'heure. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser dans la section dédiée. Donc, vous avez le chat en haut, il y a questions à côté. Posez-les, on regardera, on essaiera d'en traiter vraiment un maximum. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est quand je vais à la banque et que je mets l'argent sur mon livret. Bon, j'y vais plus aujourd'hui. Quand je vais sur l'app de ma banque et que je mets l'argent sur le livret A, on me donne 0,5% par an. Et après, quand je vais voir sur des sites comme Just ou comme Swissborg ou les grosses plateformes, on me dit, bah là, c'est 10% par an pour du stablecoin. Comment t'expliques cette différence et est-ce qu'on peut vraiment comparer l'un à l'autre?
Alors, il y a plein de façons de l'expliquer technologiquement, les nouvelles blockchains qui du coup donnent des bonus dans leur crypto-monnaie. Donc, en fait, tu penses que tu as 10, mais tu as 6% stablecoin plus un bonus qui te permet d'être à 10. Bref, c'est assez complet. Assez complet et compliqué d'ailleurs. Par contre, ce qu'il faut comprendre, et si je devais l'expliquer en une ligne, c'est que c'est une technologie où il y a énormément de demandes, peu de gens qui comprennent et très peu d'offres finalement dans les solutions parce qu'il y a tellement de nouveaux entrants tous les jours, il faut construire, il faut proposer des bonnes solutions. C'est donc un segment d'hypercroissance. Quand on regarde la Chine qui avait explosé pendant 7 à 8 ans, il faisait 10-15% de croissance par an, on peut faire un parallèle pareil. Il y a des sites internet qui proposaient à leurs investisseurs des gros rendements parce qu'avec beaucoup d'argent à ce moment-là, on pouvait créer beaucoup de valeur sur internet. C'était le début. Il y a des risques, mais c'est le moment. Ben, c'est pareil dans la blockchain. Comme la DeFi se lance, ce sont des protocoles qui prêtent, qui empruntent, ce sont des protocoles qui assurent. Quoi qu'il arrive, dès qu'on fait de la finance, on a besoin de liquidité. Pour prêter, on a besoin d'avoir de l'argent. Pour emprunter, on doit emprunter à quelqu'un qui a de l'argent. Pour s'assurer, on doit être capable de dire à quelqu'un « Ok, tu me donnes 100 euros par mois, mais s'il y a un problème, moi, je peux te couvrir jusqu'à 5 000 $ », tu vois. Donc, il faut de la liquidité. Tout comme une banque, elle va emprunter soit à la BCE, soit créer en fonction de ce qu'elle a dans ses comptes, soit utiliser… Enfin, c'est le métier d'une banque finalement, mais là, c'est décentralisé. Donc, naturellement, on a besoin de ce que l'on appelle du « liquidity providing », des gens qui vont venir apporter de la liquidité. Et il y a tellement de besoins, tellement de nouveaux protocoles qui ont besoin de cette valeur, qui ont besoin que ça circule, que ça tourne, que ça échange. Eh bien, naturellement, on a besoin de liquidité. Et donc, naturellement, on a besoin de liquidity provider. Et quelqu'un qui aujourd'hui prête sa crypto-monnaie, c'est quelqu'un qui va naturellement être bien rémunéré. Maintenant, j'aimerais le dire parce que c'est un fait. Et on peut des fois monter à des plus hauts taux d'intérêt quand on prend des risques, parce qu'on peut toujours mettre un effet de levier sur son risque. Par contre, il faut bien avoir conscience du fait que cette croissance absolue qui va peut-être durer quelques années, théoriquement, si la blockchain arrive un jour dans la poche de tout le monde comme je le rêve et comme je suis certain que ça va arriver, eh bien, on n'aura plus 10-12% d'intérêt par an, en tout cas pas sur des monnaies stables, quoi.
Donc là, c'est quelque part parce que le marché est encore nouveau, encore jeune, en pleine explosion.
Et on peut même dire risqué. On peut même dire risqué.
Exactement. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a une perception de sécurité parce qu'on te dit 10%, 12% de rendement, mais même ces rendements-là ne sont pas fixes. Il n'y a personne qui te les garantit. Ils changent tous les jours, toutes les minutes.
L'offre et la demande.
Les gens sont prêts à payer en face pour t'emprunter de l'argent.
C'est ça. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que si d'un coup il y a 10 fois moins de demandes demain, l'argent que tu as prêté à 10%, il sera prêté à 10 fois moins. Instantanément, et l'algorithme, il régule. L'algorithme, lui, il ne doit pas faire d'erreur. Si d'un coup, il y a 10 fois moins de demandes, il va baisser les intérêts. Comme ça baisse les intérêts, les gens vont retirer. Comme les gens retirent, ça va remonter les intérêts. Ça s'autorégule, en fait. Puisque naturellement, si d'un coup, tout le monde en veut, les prix vont être fous. Les rendements vont être dingues. Si tout le monde veut emprunter, les rendements vont être fous. Puis moi, je vais voir, attends, on veut vraiment emprunter mes dollars à 29% par an, là? Là, je vais aller les prêter, c'est rentable. Et comme tout le monde va se mettre à prêter, ça va finir par baisser les rendements des emprunteurs. C'est censé se réguler, tout simplement.
Et d'ailleurs, on le voit, c'est un phénomène très intéressant. Tu parlais de la BSC que quelqu'un citait. Toutes les nouvelles blockchains qui se lancent, Solana, Avalanche, etc., en fait, elles payent, finalement, les protocoles et les protocoles payent des taux énormes pour attirer de la liquidité. Mais bon, tout ça, ça va finalement se réguler à un moment. Et donc aujourd'hui, Ethereum, c'est beaucoup moins intéressant que les nouvelles blockchains sur la DeFi.
Il y a des gros frais, ouais. Puis les nouvelles blockchains utilisent une nouvelle technologie très rapide et peu coûteuse. Ether, c'est le même moteur depuis 2017. Ça va changer bientôt. Mais les gens, ils arrivent et ils comparent une toute nouvelle blockchain qui date d'il y a 6 mois à Ether, qui gère déjà des dizaines et des dizaines de milliards et qui fonctionne bien sans aucun problème depuis. Enfin, donc, il faut comparer ce qui est comparable. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a deux types de projets crypto. Les infrastructures, il faut voir ça comme des moteurs, et les protocoles qui viennent utiliser ces moteurs. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, si on dit, je ne sais pas moi, Cardano, Ether, BNB, on peut dire c'est un moteur à eau, un moteur à essence, un moteur électrique. Ce n'est pas la même chose. Et par contre, il y a des crypto-monnaies qui vont arriver et qui vont être construites. Les crypto-monnaies, c'est un peu comme des voitures. Tu vas choisir quel moteur tu utilises. Après, ta voiture, elle peut être compatible avec trois moteurs. Ça existe avec de plus en plus de blockchains, en fait. Par exemple, je prends l'exemple du BNB. C'est une blockchain d'infrastructure, c'est un moteur, mais le BNB peut aussi bien être sur la blockchain de Binance que sur la blockchain Ether, que sur la blockchain Solana, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la cross-compatibility. Et c'est ça qui est assez dingue à remarquer aujourd'hui. Il y a quelques grosses blockchains qui se battent pour dire « mon moteur, c'est le moteur que tout le monde utilisera à l'avenir ». Tu en as quelques-uns qui disent « ouais, mais nous, on s'en fout parce qu'on va créer des moteurs qui sont compatibles entre eux ». Si toi, demain, tu veux créer le Finary Coin, tu peux très bien dire « moi, j'aimerais qu'il soit compatible avec Ether, avec Solana ». Et puis, tu as plein de blockchains qui sont là à se battre en disant « ouais, on va tuer toutes les blockchains, il n'y aura qu'une seule blockchain qui va gagner le combat ». Les grosses blockchains les plus intelligentes, Ether, Polkadot, etc., c'est des gens qui disent « non, nous, les tokens de notre blockchain se doivent d'être compatibles avec les autres blockchains ». Donc, on fait ce qu'on appelle un bridge, un pont qui permet de passer des crypto-monnaies d'un moteur à l'autre, en fait.
Ça, les bridges, c'est vraiment incroyable. Peut-être qu'on aura le temps de les aborder. Je vois l'heure qui passe. On va aborder un dernier point avant de passer aux questions. Là, concrètement, si je veux me lancer aujourd'hui dans la DeFi, est-ce que tu as des recommandations pour moi, peut-être en termes de protocole, des choses que tu trouves intéressantes, des choses qui ont attiré ton attention et qui te semblent pertinentes pour quelqu'un qui veut s'y exposer et qui veut prendre un petit peu de risque?
Alors déjà, j'insiste vraiment, si vous n'avez même pas un peu de Bitcoin qui dort dans un coin, voilà,
vous allez acheter du Bitcoin, vous revenez après.
Enfin, vous pouvez aller sur de la DeFi tout de suite, mais tant qu'à faire, aller au casino du coin et gagner du temps, quoi. Vous pouvez gagner sur un gros coup de chance, vous pouvez tout perdre parce que vous n'avez rien compris, mais si vous n'avez même pas un peu de Bitcoin, vous n'avez même pas fait 2-3 transactions et si vous n'êtes même pas capable d'aller échanger vous-même de façon décentralisée une crypto-monnaie contre une autre juste avec votre clé et Internet, allez pas faire de la DeFi. Voilà. Après, ça peut être c'est toujours pareil. Si ça fait x10 demain, vous allez vous dire « oh là là, j'aurais dû le faire, il m'a fait perdre de l'argent ». Évidemment, mais globalement, sur 100 débutants, il y en a 90 qui vont finir dans le mur s'ils ne suivent pas ce conseil. Par contre, si vous bidouillez un petit peu, vous savez échanger, vous savez vous connecter… Je vois dans le chat, il y a les fans d'Avalanche, il y a les fans de Polkadot, des gens qui bidouillent un petit peu, qui ont déjà leurs avis, qui ont déjà essayé. À ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de rester sur du très classique. En fonction de vos volumes, ne commencez pas sur Ether. Aujourd'hui, sur Ether, c'est un réseau qui est tellement congestionné et qui repose sur une vieille technologie qui est en train d'être mise à jour. Le moindre échange, vous allez payer $60 de frais. Alors, si vous me dites « oui, Owen, moi, je suis un débutant, mais j'ai 5 milliards d'euros à mettre dessus », oui, vas-y, va sur Ether, ce ne sera pas un problème pour toi. Mais si vous êtes comme le commun des mortels et que vous allez commencer avec quelques centaines ou quelques milliers d'euros, commencez sur une blockchain qui non seulement propose la DeFi, il y a plein de blockchains géniales qui ne la proposent pas encore finalement. Polkadot, ça arrive. Elrond, ça arrive. Mais là, globalement, il y a des blockchains comme Avalanche, par exemple, qui commencent à proposer des protocoles DeFi très jeunes qui vont vous permettre d'échanger en payant un centime, même pas de frais. Pareil pour Solana qui propose des premiers échanges. Mais là, on est un peu dans la phase où la plupart des grosses blockchains d'infrastructure, pour revenir à mon exemple de tout à l'heure, la plupart des moteurs commencent seulement à proposer leur premier protocole. Ether le fait depuis longtemps, mais c'est un très gros réseau qui coûte cher. En attendant, Solana, ça fait quelques mois seulement. Avalanche, ça fait quelques semaines seulement.
Mais c'est fou, ouais.
Binance Smart Chain, il le propose depuis quelques mois parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont proposé. Mais voilà, en gros, c'est très jeune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la DeFi n'est pas encore compatible avec tous les moteurs. Moi, j'adore par exemple la crypto-monnaie Elrond. Elle est géniale, mais si vous voulez faire de la DeFi, il n'y a encore rien à faire parce qu'ils vont annoncer ça dans quelques semaines. Et donc, les premiers protocoles, il y aura peut-être de grosses valeurs dessus, mais très rapidement, il y en a qui vont s'imposer en leader. Et donc là, on est vraiment en train d'observer à quel genre de moteur on est en train de créer finalement. Quel sera le moteur le plus utilisé? Et je ne pense pas que ce sera un monopole. Je pense que ce sera un oligopole. Il y aura 4-5 technologies qui sortent vraiment, un peu comme Internet aujourd'hui. On a Internet différent en Asie. On a un Internet qui est utilisé plutôt en Europe et aux États-Unis. On se retrouve avec 2-3 technologies qui sont utilisées par tout le monde.
Ça marche. Top. Bon, du coup, je pense que ce qu'il faut en retirer, c'est finalement, c'est les bons coins. Voilà, il faut aller les chercher. Et donc, pour aller les chercher, il faut s'y intéresser. Donc, vous pouvez essayer de trouver et de faire un fois 100 par chance. Peut-être que ça arrivera, je vous le souhaite. Mais d'expérience, et aussi, je pense que Owen, tu as vu la même chose. Il faut prendre le temps, il faut s'intéresser. Il y a des choses géniales. Solana Avalanche, c'est deux exemples. Polkadot, c'est très intéressant. C'est techniquement hallucinant quand même ce que fait Polkadot, par exemple.
Mais il faut creuser dans la technique. Si vous voulez juste bidouiller, regardez Binance Smart Chain, la BSC. Pourquoi ? Déjà parce que c'est hyper simple. C'est pour moi actuellement les trucs les plus simples de la DeFi.
C'est clair.
Solana et Avalanche sont pas loin derrière, donc ils vont proposer ce genre de solution. Mais un, ça dure depuis plus longtemps. Rien que sur PancakeSwap, et vous allez me dire, mais pourquoi ça s'appelle PancakeSwap ? Ben, en fait, c'était tellement compliqué la DeFi. Ils ont essayé de gamifier le truc. En mode, vous connaissez, est-ce que vous connaissez Cookie Clicker ? Est-ce que ça parle à des gens dans le chat là qui peuvent nous mettre un petit message ? Cookie Clicker, où tu investis sur une machine, ça te permet de gagner des rendements, tes rendements te permettent d'acheter une autre machine. Eh bien, c'est quelque chose de très ludique. Et c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire. Parce que quand ils ont compris la DeFi, ils se sont dit, OK, comment on va faire en sorte que des gens nous apportent leur liquidité ? Il faut prendre un jeton, le mettre dans une machine, la machine te donne un autre jeton, ce jeton te rémunère. C'est barbare. Eh bien, c'est Cookie Clicker. Et Cookie Clicker, on a tous compris, c'était rigolo. Mais voilà pourquoi PancakeSwap. Voilà pourquoi ils sont partis par là. Au début, il fallait comprendre avant de faire un truc, Finance Swap, protocole DeFi, ça faisait peur. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi enfantin, qu'il y a des petits trucs. On entendait qu'il y a eu les Pizza Coin à un moment, ce genre de truc. Parce que c'était la mode, on devait gamifier pour donner aux gens envie d'aller plus loin. Les développeurs l'ont bien compris, quand c'est trop barbare, ça n'attire pas. Et donc, naturellement, si vous voulez débuter avec un petit 10-15 euros, amusez-vous, bidouillez sur la Binance Smart Chain, sur PancakeSwap, vous pouvez faire du liquidity providing, des échanges, vous pouvez faire ce genre de du farming, et là, vous allez découvrir ça. Et après, bah, découvrez d'autres technologies, faites-vous votre avis, mais étape par étape, naturellement.
T'es la voix de la raison, Owen, c'est top.
Je suis pas sûr, mais…
si, ça fait… C'est marrant parce que il y a beaucoup de gens quand même qui… Tous ceux qui sont là depuis longtemps, en gros, c'est comme les vieux loups. C'est comme les… Ils ont vu trop de crash, ils ont vu trop de crises, ils ont vu tous les nouveaux coins. Qu'en fait, ils savent qu'on ne peut pas prendre tous les trains. C'est OK d'en rater. On va même en rater la plupart. Il suffit d'être dans un bon train. Les gars qui ont acheté Bitcoin en 2014, ils ont tous… Enfin, s'ils ont mis 10 000 en 2014, là, ils ont 100 millions en banque. Donc, il n'y a pas besoin de prendre tous les trains. Il y a besoin de prendre un bon train. Et après, il faut aussi avoir la capacité à le tenir. Comme tu disais tout à l'heure, bah, être hodler, hein, finalement. Et donc, trader, c'est peut-être pas la bonne solution en crypto parce que
tu disais… Déjà, ça te donne l'impression que tu es un trader. Trader, c'est un métier.
C'est un métier très compliqué. Mais c'est un métier d'expert. Les vrais traders utilisent des modèles mathématiques. Ils tradent surtout avec des machines.
Ouais, puis t'oublies que c'est de l'argent, en fait. Ouais, moi, je connais des gens, ils ne parlent plus en euros, ils ne parlent plus en dollars, ils parlent en Ether. Moi, je t'envoie 0,1. Alors, c'est génial, c'est sûr. Par contre, c'est encore volatile. Et puis, tu dis, bon, ben. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller au casino, de perdre 1000 euros, t'es pas bien. Ça m'est déjà arrivé de perdre 0,3 Ether et de me dire, allez, c'est pas grave.
Ouais, c'est pareil. C'est un truc assez commun, je pense.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que les casinos te donnent des jetons. C'est pour te mettre encore plus de distance entre ton argent et ce que tu as. Donc ça, il faut le garder en tête. Et ensuite, oui, ce monde est fait, il va tellement vite. Et il y a des moments où ça monte tellement fort. N'importe quel idiot peut gagner de l'argent. Et c'est frustrant de voir des idiots qui gagnent de l'argent. Surtout qu'on a tous quelqu'un à côté de soi qu'on se dit, putain, mais lui, il est débile. Comment il a pu gagner de l'argent sur la crypto? N'importe qui. Quand le marché est dans une phase ascendante, n'importe quel crétin peut gagner de l'argent. Par contre, il y a les phases descendantes.
C'est même une stratégie d'aller acheter ce qu'achètent les crétins, d'ailleurs. Vous rigolez, mais il y a des hedge funds qui font vraiment ça.
Il y a des hedge funds qui se basent sur les études de la myrmécologie, qui sont les études des comportements des fourmis. Ils te mettent un bout de viande et du sucre. La viande, ça apporte de l'énergie à la fourmilière pendant plusieurs mois. Le sucre, c'est très court terme, mais ça donne beaucoup d'énergie. Et ils se disent, bon, ben, on imagine deux bonnes nouvelles en bourse. Les crétins, ils vont faire quoi ? La bonne nouvelle court terme ou la bonne nouvelle long terme ? Et ils étudient les fourmis. Donc, c'est une stratégie finalement. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que ne vous laissez pas mettre la pression. Surtout quand vous entendez plein de gens dire « Ouais, c'est le bon train, c'est le bon train, c'est sûr, c'est le bon train. » C'est ce qu'on appelle the fear of missing out, le FOMO. Et globalement, voilà, le Shiba Coin, c'est un bon exemple. C'est un coin qui ne sert à rien. Par contre, il y a tellement de gens qui en ont acheté, que le truc est monté. Et donc, moi, je dis aux gens, non, c'est nul. Ils me disent, ouais, mais Owen, j'aurais dû en acheter, j'aurais fait x3. Je dis, attention, je dis pas que tu peux pas faire x3. Je te dis juste qu'il n'y a pas de volonté d'avoir une technologie sous-jacente qui va changer le monde. Qu'il n'y a pas, tu vois, Polkadot, Solana, Ethereum, BNB, ADA, même Ripple, on pourrait le mettre dedans. Ils ont tous leur vision à eux, qui plaît ou qui plaît pas, mais ils apportent quelque chose, de la rapidité, une technologie. Ils essayent d'innover. Il y a vraiment des coins, ils sont créés pour rien. Le but, c'est de dire aux gens que ça va bien marcher. plus il y a de débutants qui y croient, plus ils achètent, plus ça monte. Et puis à un moment, les premiers qui sont arrivés au tout début, les vieux loups qui ont lancé le protocole, ils partent. Et là, il y a plein de gens qui disent « Oh là là, je me suis fait avoir ben, Shiba, Dodge. » Et encore, Dodge, il a une petite histoire derrière parce que Dodge, il a été créé pour faire un clin d'œil à toutes ces monnaies stupides, mais SafeMoon, etc., etc. Donc, gardez ça en tête et surtout, prenez le temps de vous renseigner. Vous le savez, quand vous tapez sur un protocole, vous prenez le temps, vous tapez Shiba Coin, vous creusez un petit peu.
Il n'y a rien.
Vous voyez. Alors que vous tapez White Paper, Polkadot, différences technologiques, ah, vous allez avoir un peu mal à la tête. Mais vous allez comprendre que derrière, ça construit, quoi.
Ça picote. D'ailleurs, le White Paper de Bitcoin fait, je crois qu'il fait 19 pages. Donc, c'est vraiment très, très… Enfin, ce n'est pas simple, mais c'est relativement clair. Et je vous invite à le lire parce que c'est hyper intéressant, vraiment. Et quand on lit, on a l'impression un peu de lire, de regarder un vieux film avec des effets spéciaux un peu pourris. On se dit, ouais, il y a des bonnes idées, mais c'est quand même un peu dépassé. Mais en même temps, Bitcoin est là depuis 2013. Et en finance, il y a un adage qui dit, voilà, ce qui a survécu 10 ans, c'est l'Indy Effect.
C'est comme regarder le premier moteur et de se dire qu'il y a un seul truc sur lequel on ne peut absolument pas détrôner Bitcoin, puisque maintenant, on peut le détrôner dans les transactions par seconde. Bien qu'il y ait des logiciels par-dessus Bitcoin qui lui permettent lui aussi d'être super scalable et super rapide. Mais imaginons qu'on regarde vraiment le Bitcoin sur tous les aspects d'un point de vue sécurité. D'un point de vue, même si tous les États dans le monde, même si les plus gros veulent s'emparer et contrôler le Bitcoin, Bitcoin, ça reste la plus grosse boule de neige qui a, pour donner un exemple, Google a un uptime de 99,9%, ce qui veut dire que Google fonctionne 99,9% du temps. Sur une année, ça représente quelques heures de coupure. Bitcoin a un meilleur uptime que Google en 2021. Le truc, c'est une boule de neige lancée en haut d'une montagne en 2013. D'accord, en 2009, pardon, je vous dis des grosses bêtises. 2008, les idées. 2009, les premiers fondements. Et 2013, c'est quand ça a commencé à devenir un peu mainstream. On en a parlé pour la première fois. Eh bien, on va avoir naturellement un Bitcoin qui aujourd'hui, je crois que c'est 99,998% d'uptime. Donc, le truc fonctionne plus souvent et avec moins de bugs que Google sur une année. Donc, c'est quand même fou. Alors oui, c'est un vieux moteur parce que c'est le tout premier moteur et que naturellement, les gens… Vous savez, l'être humain, il avance avec de l'incrémentation empirique. Il marche, il n'a pas regardé devant lui, il s'est pris un truc, il a mal, du coup, il recommence à marcher le lendemain, mais il regarde devant lui parce qu'il a compris que sinon, il allait avoir mal. Ben, Bitcoin, lui, c'est le tout premier. Donc forcément, on n'a plus que s'en inspirer. Et là où Bitcoin ne doit rien à aucune des autres crypto-monnaies, toutes les autres lui doivent naissance parce que c'est lui qui a montré, regardez, c'est possible d'échanger deux choses sans passer par un tiers de confiance, de façon sécurisée et totalement inviolable. Point. Et c'est ce qu'il faut se souvenir. Et d'ailleurs, il y a des gens qui résument sa proposition de valeur. Pourquoi il continue de monter s'il est vieux? Un, parce qu'il est super sécurisé. Avoir des bitcoins, c'est solide. Et deux, parce qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Et les banques centrales ont tendance à oublier ça quand elles parlent du nombre d'euros et dollars en circulation.
C'est l'or digital quelque part. On va passer aux questions. Il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Alors, je prends les questions dans l'ordre des votes. Donc, les questions qui vous intéressent, allez voter pour et on les traitera. Donc, Nicolas veut savoir, est-il toujours intéressant de réaliser un DCA dans un marché où finalement les cours sont assez élevés?
Totalement. Alors, dans une période où tu vois que tout le monde très fortement, si tu veux te calmer un petit peu, tu peux mettre un peu plus. Tu peux par exemple dire un DCA, je le rappelle, hein, c'est Dollar Cost Average. Donc, c'est investir tous les mois le même montant. En gros, si le Bitcoin est à 10 000 ce mois-ci et si le Bitcoin est à 20 000 le mois prochain, si j'investis 50 euros chaque mois, ben on peut dire que j'ai eu le Bitcoin à un dollar cost average de 15 000 par Bitcoin parce que c'est une moyenne des deux. Ce qui fait qu'en gros, ça permet de ne pas se concentrer sur le prix. Tous les mois, on met un montant, on épargne et c'est ce que je conseille aux gens qui n'ont pas le temps de s'y intéresser mais qui veulent quand même investir dans les crypto-monnaies.
Donc, même au prix actuel, tu y vas.
Même au prix actuel, j'y vais, surtout que je ne rentre pas pour 2 ou 3 semaines. Quand tu fais un DCA, tu te dis c'est 2 ou 3 ans. D'ailleurs, aucun
vie,
être humain.
Ça
peut être pour la vie. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, donc je ne peux pas garantir que ce sera le cas. Mais jusqu'à présent et depuis sa création, aucune personne ayant acheté du Bitcoin et l'ayant gardé pendant plus de 3 ans n'a réussi à perdre de l'argent. Le Bitcoin, même s'il monte et qu'il descend, personne, si tu l'as tenu dans le pire des cas en prenant les deux points, les 3 ans maximum et tu gagnes de l'argent. Donc, tu peux perdre de l'argent sur du court terme. Par contre, si tu achètes un petit peu tous les mois, naturellement, ça va monter. Et en plus, quand tu fais du DCA et que tu as connu le Bitcoin à 50 000 euros pendant une année, il y a un truc qui descend à 25 000. Tu dis, oh, c'est peut-être le moment de multiplier par deux mon DCA finalement. Exactement. Parce que je sais qu'il y a des hauts et des bas, mais tu peux dire, ok, moi j'aimerais investir 100 euros par mois sur le Bitcoin, mais tu sais quoi, je le trouve haut en ce moment, donc je mets 50 euros. Le jour où je le trouverai, parce que c'est subjectif, bas, ou s'il descend bien plus bas, ben, je le mettrai à 100 ou 150 euros par mois. Et du coup, au fil du temps, pour te donner, mon papa a commencé par ça en 2015 et il achetait presque un Bitcoin par mois avec 400 euros. Malheureusement, ouais, après, tu arrives à autre chose. Est-ce qu'il a tenu son DCA? Ben, quand le Bitcoin a fait x3 et qu'il était à 1500, il en a revendu. Et c'est ça le problème. Le DCA marche très bien sur du très long terme. Et mon papa, il fait, oh là là, le DCA, c'est incroyable, mais il faut être capable de le tenir. Même si vous pouvez très bien voir le Bitcoin faire x3 et dire, moi, j'arrête mon DCA. Faut savoir prendre des plus-values aussi, quoi. Il y a ceux qui ne vendent jamais, ils ne gagnent jamais. Hein. Ça, c'est
l'argent n'est pas une finalité. Ça ne sert à rien de partir. D'ailleurs, je vois qu'il y a une question sur le décès. On va traiter ta question, Quentin. Ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Donc,
Ça fait
aussi plaisir. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans la crypto qui se font très plaisir. Ils ont bien raison. Mais quand même, ce que je vois, c'est que les gens qui sont devenus très riches grâce à la crypto sont quand même encore massivement investis. Il n'y a personne qui se dit, voilà, moi, je vends tout et je repasse en euros. Parce que tout simplement, en fait, il n'y a rien qui va… c'est la classe d'actifs qui va le plus monter dans les années à venir. En tout cas, c'est la plus prometteuse. Qui dit gain, dit, je pense, le sujet préféré de tous les Français, c'est les impôts. Bon, ça fait peur. Concrètement, sans rentrer dans tous les micro-détails, comment on fait? Est-ce qu'il y a déjà des règles qu'il faut respecter? Et après, est-ce qu'il y a des outils que tu recommandes pour peut-être automatiser des choses? Et je dirai un petit mot sur ça à la fin.
Pareil, chaque année, je fais une vidéo pour mettre à jour sur le sujet parce que ça évolue. Rien que là, il y a des amendements qui sont passés il y a quelques jours.
C'est vrai. Plutôt favorable d'ailleurs.
Plutôt favorable. Là, pour le coup, on a quelques députés, notamment Pierre Person, qui est un député de Paris, qui prend vraiment l'écosystème crypto à cœur. Et même à chaque fois qu'il est consulté et qu'on n'applique pas vraiment ce qu'il conseille, bah, il recommence, il se bat et il pousse vraiment dans le bon sens pour le coup. En tout cas, il essaye. Et pour le coup, en gros, ce qu'il faut retenir, pour faire très très simple, c'est 30% de vos plus-values, c'est la flat tax. D'ailleurs, il y a plein de trucs, ouais, mais si je fais de la DeFi, ouais, mais si. En gros, flat tax, même si tu fais de la DeFi, du moins pour l'instant, comme c'est encore flou et que c'est de l'interprétation des textes de loi, on en est là. Ce qui fait peur à ceux qui ont gagné beaucoup dans la crypto-monnaie, c'est qu'on te dit, bon, attention, particulier, c'est flat tax, 30%. Par contre, tu peux vite être qualifié selon quelques critères en tant que professionnel. Là, il faut que tu crées ton entreprise et puis là, très vite, tu montes à 60 ou 70%. Et le problème, c'est que la requalification n'est pas très claire. Du coup, il y a des gens qui arrivent qui disent « Owen, tu vois, là, ils disent par exemple que la requalification, on peut me considérer comme un professionnel et me mettre à 70% ou 60% si jamais je fais plusieurs transactions, un grand nombre et qu'on me considère comme un trader. Mais quand tu achètes un Bitcoin, tu peux faire une transaction. Mais en réalité, tu peux acheter ce Bitcoin à des milliers de personnes qui t'ont vendu 0,01, 0,02, 0,00324. Parce qu'en gros, le fisc, ils peuvent recevoir ma déclaration d'impôt. J'ai juste acheté une fois un Bitcoin, je l'ai vendu une fois. Il peut dire oui, mais alors, selon le nombre de microtransactions, vous avez fait 296 transactions en une minute, ce qui veut dire que vous avez fait beaucoup de transactions en très peu de temps, vous êtes un professionnel. Et donc, ce flou-là, c'est le gros travail actuel de ces amendements. Le but, c'est de petit à petit commencer à éclaircir et de dire non, n'abusons pas. Ne laissons pas trop de marge de manœuvre à la loi non plus. La loi doit être claire parce que nul n'est censé l'ignorer. Mais là, actuellement, les gens, ils ignorent à quelle sauce ils vont être mangés finalement. C'est different sauce, the same potato. Et là, ils sont dans une situation où ils se disent bon, ben, ok. Et c'est mon gros problème, je vais être franc avec toi, ça fait plus de 18 mois, 3 cabinets d'avocats fiscalistes. J'ai rencontré même des gens qui me disent ouais, non, clairement, là, le fisc va pouvoir dire « Vas-y, c'est quoi le montant ?» Voilà, on pourrait quand même dire « Il est professionnel du trading. Hein. » Alors que moi, je suis un investisseur, c'est mon métier. Par contre, je ne suis pas un professionnel du trading. Je n'achète pas pour revendre, je prends, je mets de côté. Quand ça se valorise, je revends. Donc, c'est là, le flou, il est là. Globalement, si vous avez gagné quelques milliers d'euros, ils ne vont pas vous reconsidérer comme professionnel. Ce qui fait peur, c'est ceux qui ont gagné vraiment beaucoup et ceux qui, comme moi, je ne vais pas vous mentir, tous les jours, je fais 2-3 achats-ventes. Je ne suis pas un trader. Par contre, je peux très vite être qualifié de par les volumes que je trade comme un professionnel parce que ça arrangerait bien le fisc. Et pour le coup, je veux bien payer mes 30%, bien que certains ne sont pas d'accord, et préfère partir dans un pays où on est libre de payer 0% d'impôt sur ses cryptos, hein, faut le savoir.
Ça existe.
Moi, je veux rester ici depuis mon ancrage, depuis ma position, mais je veux être sûr que c'est 30 et pas 70 parce que c'est quand même pas la même musique. Il y en a un qui est vraiment punitif selon moi Il y en a un autre qui fait mal, mais qui peut se comprendre de par la situation de notre pays. Ça, après, ça dépend de chacun, et c'est une question personnelle auquel vous devez répondre. La question, c'est vous et votre position, comment vous êtes bien dans vos bottes. J'en connais plein que j'aime beaucoup, qui m'ont dit « Ouais, moi, je me suis fait racketter toute ma vie, maintenant, c'est fini. » Et ça, je le comprends aussi.
D'ailleurs, tant que vous ne vendez pas, vous n'avez pas à déclarer vos plus-values, parce que c'est des plus-values latentes, mais il faut déclarer les exchanges. Donc, si vous avez des comptes à droite, à gauche, au milieu… Il faut les mettre sur votre déclaration. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être redressé pour ça. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fisc n'est pas mal intentionné. Enfin, on l'appelle le fisc, mais ça ne s'appelle pas comme ça. Les impôts ne sont pas mal intentionnés. Mais disons que c'est un sujet qui est nouveau, comme tu as dit. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment une incompréhension. Et la DeFi, ça n'existait pas il y a quelques années. Donc, forcément, la loi a du retard. Donc, les taxes... Ne vous inquiétez
pas. Et du coup,
ouais,
les stablecoins, hein, si vous avez peur de la volatilité en mode attends, j'achète voilà, de la crypto, ça bouge, eh bien, vous pouvez échanger contre du stablecoin, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui restent à 1$ ou à 1€. Si vous avez des gros montants, vous diversifiez sur différents stablecoins, mais ça vous permet de rester en crypto, donc de ne pas repasser en euros, de ne pas faire de cession imposable et donc de ne pas devoir payer d'impôts. En France, hein, par exemple, si vous êtes au Luxembourg, vous passez de Bitcoin à Ether, s'il y a de la plus-value, vous payez. Hein. Mais là, vous pouvez, en France, vous passer d'une crypto à une autre, pas de plus-value de cession. Et donc, à ce moment-là, jusqu'à ce que vous trouviez le régime qui vous convienne ou pourquoi pas la terre qui va vous accueillir pour les plus chevronnés.
Ça va être du Dubaï, ça va être du Portugal, voilà. Mais vous ferez vos recherches. On a fait un article d'ailleurs sur le sujet. Quentin veut savoir, avec les authentifications fortes que tu décris, est-ce qu'il existe un moyen pour les héritiers de récupérer tes cryptos en cas de décès ? Et ça, je pense que ça va devenir un sujet gigantesque.
Alors, je me dois de placer une société dans laquelle je suis advisor. En attendant, on peut le faire sur la blockchain, on peut le bidouiller, mais il y a une entreprise qui s'appelle Ternoa et Nicolas Rongard, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, vient de nous le dire. Ternoa, c'est leur job. Ternoa, ils font des time capsules, ce sont des NFT. Autre pan qu'on vient d'ouvrir là, la boîte de Pandore, mille questions qui défilent.
Quasiment
dans
la fin du live et tu nous
écoutez,
ouvres.
Écoutez, on répond jusqu'à 20h30. Non, bref, en tout cas, c'est, on va dire, un code, un truc qu'on lance dans la blockchain dans lequel on peut mettre des codes. Et on peut lui dire, voilà, s'il se passe ça, si je ne me connecte plus, alors transférez l'argent d'un point A à un point B. Moi, vous pouvez vous-même mettre une transaction et dire, voilà, si je n'annule pas cette transaction, dans 1996 heures, l'argent part là-bas. Et tous les jours, vous pouvez annuler et remettre ça chaque année et vous dire, bon, ben, cette année, ben, je ne suis pas mort, alors naturellement, je vais aller annuler ce contrat et je vais remettre dans un an. Donc oui, vous avez des solutions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous parlez à une machine finalement. Donc, soit vous savez vous-même coder dans le langage de cette machine et mettre du code, soit il y a des entreprises comme Ternoa qui vont vous permettre d'arriver, d'acheter une capsule. Vous pouvez même la designer. Pourquoi pas faire en sorte que quand la capsule s'ouvre, il y a votre mot de passe pour que votre frère ou votre famille, par exemple, puisse accéder à votre argent. Mais il y a également une vidéo qui était chiffrée qui s'envoie à vos parents dans laquelle vous dites « Bon, bah, si vous regardez ça, voilà !» Vous vous doutez bien, quand je tourne, je ne suis pas dans le même mood, mais là, j'ai une petite idée de votre situation là, maintenant, tout de suite. Mais vous inquiétez pas, j'avais prévu quelques surprises pour vous. Et tu peux programmer toi-même ta session, ton site, là, mettre tes stablecoins. Alors, c'est toujours un peu dur. Est-ce que tu veux mettre dans ta capsule des crypto-monnaies très, très jeunes d'aujourd'hui qui n'existeront peut-être pas dans 20 ans ? En attendant, tu sais que la capsule peut être envoyée sur différents réseaux, des réseaux qui peuvent être notamment redondé, parce que s'il y a le réseau Ternoa tombe, pourquoi pas l'envoyer sur un autre réseau. Bref, la blockchain, c'est quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus pérenne. Et donc, c'est une bouteille à la mer, mais on sait qu'elle arrivera à destination. En tout cas, il y a plus de chances que ton message arrive à destination que si tu lançais une bouteille n'importe où dans la Méditerranée. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de voir qu'il existe des solutions. Elles ne sont pas encore toutes très simples d'usage. Ternoa n'a pas encore lancé son premier cas d'usage, mais tu pourras lancer ta capsule et régler. Dans combien de temps, à qui, pourquoi, est-ce que c'est chiffré, quelles sont les conditions, les paramètres. Et puis, autant te dire qu'avec autant de possibilités, les meilleures idées, on ne les a pas encore inventées, en fait.
C'est clair. Je pense qu'il y a tout à faire. D'ailleurs, c'est aussi ce qui est fort dans la crypto, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des entrepreneurs comme toi, qui se lancent. Et tu peux pas facilement, mais tout est ouvert, tous les systèmes sont ouverts, il n'y a pas de barrière. Donc, tout est finalement, c'est l'inverse d'une banque, hein, quelque part. Le système financier traditionnel est très fermé. On l'expérimente tous les jours chez Finari. La blockchain, voilà, tout est ouvert. En crypto, en fait, c'est l'inverse. Les blockchains ont compris qu'il fallait partager, qu'il fallait permettre à des gens de construire sur son système pour qu'en fait, le système prenne de la puissance.
Et beaucoup de banques ont commencé à le comprendre. Hein. Mais elles-mêmes, d'ailleurs, la façon dont elles ont ouvert leur API à un moment. leurs API ont été ouverts publiquement, permettant d'ailleurs à tous les agrégateurs, je ne vais pas t'en citer un, à tous les agrégateurs de se connecter. D'où le monde l'avait déjà compris, mais la technologie de la blockchain, ça fait partie du moteur même. Alors que dans le monde de la finance traditionnelle, on doit faire confiance aux conducteurs. Dans le monde de la finance décentralisée, on fait confiance au moteur. On sait que personne ne peut en abuser.
Ça, c'est top. Zakam veut savoir, si tu as mis du Bitcoin en gage, comment ça se passe si l'emprunteur, si la position de l'emprunteur, en gros, part dans le mauvais sens? Finalement, est-ce que tu ne vas pas te retrouver à poil?
Alors, pour faire simple, imaginons que tu aies emprunté 40 000 dollars et que la blockchain soit sécure parce que tu lui as donné 60 000 dollars de Bitcoin. Eh bien, quand le Bitcoin va perdre la valeur, la blockchain, à un moment, elle va t'envoyer un message. C'est un peu comme un margin call pour les traders. En disant, attention, là, j'ai plus que 45 000 dollars à toi. Si j'arrive à 41 000 dollars, je vais avoir peur de passer en dessous de ce que je t'ai donné et donc je vais avoir peur que tu ne reviennes jamais. Alors, je te liquide. Je prends ton Bitcoin, je le vends pour me rembourser. Et au passage, je prends une petite commission de 3 à 6% en fonction de la plateforme. Et oui, naturellement. Et d'ailleurs, c'est tous les gens qui vont supporter le risque, parce que mine de rien, ça tangue quand il se passe ça. Ben, c'est tous les gens qui sont sur le protocole que tu mets en danger si tu n'es pas capable d'honorer ta dette. Eh bien, cette petite marge va les rémunérer, va prendre des trucs, va honorer le protocole, etc., etc. Donc, en gros, soit tu mets des actifs en caution qui peuvent avoir de la valeur qui monte et qui descend, mais tu dois surveiller le niveau de la marée. Soit tu fais comme beaucoup, bah tu mets des stablecoins pour emprunter des stablecoins parce que tu as trouvé comment les placer à 11% alors que tu les as empruntés à 8%. Et c'est pour ça que les gens, ils empruntent un peu partout et qu'ils font un petit peu des… En ce moment, on est en train d'expérimenter encore. Il y a des gens qui disent, bon, bah, alors je peux emprunter à 7 sur cette plateforme. Je vais moi-même arbitrer en prêtant à 6 là-bas. Et oui.
Il y a des trucs de fou à faire. Je pense que voilà, il faut avoir conscience que c'est assez compliqué de faire ça et on peut effectivement se faire liquider à un moment. Donc, il faut y aller mollo. On ne commence pas par conduire une Formule 1, on y va tranquillement, on commence par des petits trucs, on commence par des petites sommes, mais il y a des belles choses à faire.
Il y a Jérémy Amiot qui dit, si on peut la prendre, elle est intéressante, si ça te va.
Vas-y, je t'en prie.
Tu achètes une Tesla en Bitcoin, tu rajoutes 30% pour les impôts, super. Bah ouais, mais non, parce que si tu viens de mettre de l'argent en Bitcoin et que tu payes ta Tesla, tu n'as pas d'impôt. Si tu as pris de la plus-value et que tu n'as pas payé ton impôt sur ta plus-value… Là, oui, si tu veux payer ta Tesla, tu vas payer 30%. Mais ce n'est pas 30% sur ta Tesla, c'est 30% sur ta plus-value et ensuite 30% sur ta Tesla. Je comprends, ça me fait à peu près le même sentiment aujourd'hui quand je dépense mes cryptos, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est une plus-value considérée comme financière sur laquelle tu dois t'acquitter de…
Alors, c'est pareil sur les actions. Si demain, vous vendez des actions dans votre compte titre, vous payez 30% et après, vous pouvez vous acheter une Tesla ou ce que vous voulez. Bon, voilà, il faut toujours passer par la case d'impôts en France, hein, c'est comme ça. Je regarde les questions. Alors, une question de Jean-Michel Brizard. Peut-on valider des transactions avec un ledger via une plateforme comme Kraken, Binance ou autre?
Kraken, non. Just Money non plus, on ne le propose pas. Il me semble que Binance, il propose de te connecter avec un wallet décentralisé tout en gardant ta clé. D'ailleurs, je crois que quand tu te connectes à ton portefeuille de base, mais il te propose de connecter ton portefeuille décentralisé. Par contre, attention, chaque échange, chaque transaction que tu fais, tu vas payer un vrai frais de transaction parce que tu es sur la blockchain. Donc là où tu peux échanger pour 2 centimes d'euros sur Binance, ben là, si tu veux échanger tes Ethers en connectant ton wallet à toi, ben ils vont te dire ouais, 29 euros l'échange. Et ce n'est pas Binance. Enfin, tu auras le petit frais de Binance plus les 29 euros. Ce n'est pas Binance, c'est parce que tu veux rester sur la blockchain, mais tu gardes un accès sécuritaire. En tout cas, il y a de plus en plus de modèles qui deviennent hybrides. Ils te disent bon ben, regarde, connecte ton portefeuille décentralisé. Dès que tu veux faire quelques transactions, tu envoies juste la monnaie dont tu as besoin dans le portefeuille centralisé, ce qui te permet de faire plein de transactions rapidement sans trop de frais. Et dès que tu as fini, pouf, tu renvoies ça sur ton wallet décentralisé et tu le déconnectes, tu le repasses en cold wallet. Donc, il existe déjà des modèles. Et je pense que le vrai futur, c'est l'hybridation de ces deux modèles. C'est un mélange. Faut pas croire qu'il n'y a qu'un seul modèle qui va écraser tout le reste. C'est faux. D'ailleurs, on le voit, tu as la Société Générale qui a créé la petite entreprise Forge, une petite start-up. Et elle, comme cette start-up est très agile, elle peut faire de la DeFi. Et à l'inverse, on a Aave, le plus gros protocole, l'un des plus gros protocoles décentralisés de finance au monde, qui, eux, ils sont en train de créer une petite entreprise qui vont réguler pour permettre aux fonds d'investissement de placer chez eux. Les deux mondes essayent de profiter de ce qu'il y a, de la liquidité et de l'innovation et de la valeur de l'autre. Il faut le comprendre. Il ne faut pas rentrer dans des mœurs et dans des idées où… Ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est… On est en train d'apprendre. C'est comme si tu insultes le premier gars qui a créé une voiture électrique en disant « Ouais, pour l'instant, la production pollue plus qu'une voiture à essence. » Bah ouais, mais c'est la toute première. Laisse le temps d'évoluer, laisse le temps de faire une V2, V3, V4, V5. Il faut que jeunesse se fasse, simplement.
Un peu de nuance. On va encore prendre deux questions. Guillaume, qui est un beginner, veut savoir comment acheter des bitcoins sans passer par un exchange et les détenir en direct dans un cold wallet comme Ledger.
Alors, maintenant, si tu veux pas laisser ton identité, ça devient très compliqué. Le seul moyen, c'est de rencontrer un autre particulier qui veut bien faire l'échange. Ou alors d'être
Pas
dans un
évident.
pays qui n'est pas du tout régulé.
Pas
Non, c'est
évident.
pas évident. Non, aujourd'hui, c'est délicat. Après, si tu veux pas, bah, tu peux passer par un broker. Ce n'est pas un échange. C'est vraiment quelqu'un qui te vend et qui t'achète. Tu peux les gagner dans un concours, mais c'est vrai que ça devient très compliqué. Je sais qu'il y a Local Bitcoin qui te met en relation avec des gens, mais globalement, approche-toi de gens qui sont dans la crypto. Il y en a plein qui seront intéressés par faire ça. Ouais.
Ça marche. Ça marche. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut commencer dans la crypto et faire un premier virement et acheter les premiers bitcoins, tu lui conseilles un exchange en particulier?
En toute agnosticité?
Écoute,
Non, vraiment. Alors, ça dépend un peu. Si vous
je
voulez un truc très
pense que
simple.
c'est aussi important de parler de Just on parle souvent de
Voilà.
Binance, mais il faut
Bah,
bien
on a.
préciser que Binance n'est pas régulé en France et que ce n'est pas le
C'est
même
ça.
risque.
Just Mining et Descoin te permettent de le faire directement en France.
Descoin, c'est
Voilà.
quoi?
Descoin, c'est une autre de nos structures. C'est l'une de nos trois grosses boîtes qui est également enregistrée par l'autorité des marchés financiers, qui est régulée et qui permet de faire un virement, de mettre en place un DCA par virement automatique, d'acheter des
Génial.
bitcoins en France. C'est descoin.com. Vous pouvez y aller.
On met un
Comme
petit
Just
lien.
Mining, vous allez devoir faire pièce d'identité, justificatif, etc. L'instant pub est maintenant terminé.
Ça, je pense
1,33€ minutes.
que ça, je pense qu'il faut bien le comprendre que aussi si vous ne faites pas ça à l'entrée, donc si vous faites pas, vous rentrez pas l'argent proprement à l'entrée, ça va être très dur de le sortir et de justifier la transaction. Et donc là, vous allez avoir un problème. Donc en fait, au lieu de se créer un problème à l'entrée, faites-le proprement avec un exchange qui est régulé et ne prenez pas un risque inutile parce que voilà, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Et après, tu as naturellement, évidemment, c'est dur de sortir. Il faut comprendre pourquoi. Ce que veulent les régulateurs, c'est principalement des normes d'AML. C'est l'anti-money laundering.
Bien
Parce qu'en
sûr.
gros, si on ne sait pas d'où viennent tes bitcoins, qu'est-ce qui nous dit qu'ils n'ont pas trempé dans une affaire de deep web, de blanchiment d'argent, etc. Donc, théoriquement, j'aimerais pas dire qu'ils s'en foutent, mais avoir ton identité, c'est juste pouvoir remonter à toi. Si on tombe sur l'adresse qui détient des bitcoins liés à la drogue, on veut savoir qui est derrière. C'est pour ça que c'est très dur d'en acheter sans donner son identité. Parce qu'à un moment, on veut savoir d'où vient l'argent et surtout être sûr que quelqu'un ne fait pas de mal. Après, c'est toujours pareil. Quand le régulateur a ces informations, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne va pas abuser pour suivre mes comptes et savoir qui je suis? C'est un entre-deux. Je suis contre l'anonymat parfait parce qu'il y a des gens qui font des choses horribles avec. Je suis contre le fait que tout le monde puisse m'observer parce que bah, George Orwell est déjà en train de se retourner dans sa tombe quand on entend les histoires de George Snowden. J'allais en faire une belle, là. D'Edward
Edward.
Snowden. Et quand on se dit, bon, on sait qu'ils nous espionnent. Alors pourquoi leur faire confiance? Enfin, c'est toujours un entre-deux, la vie. Quand c'est trop d'un côté extrême ou quand c'est trop d'un autre côté, c'est. Donc, je pense que c'est un juste milieu. Qu'on puisse retrouver mon nom s'il y a du blanchiment d'argent, je comprends. Qu'on puisse me fliquer toute la journée, ça ne m'arrange pas.
Je suis
C'est une
d'accord.
nuance.
Dernière question de Com. Owen, quelles sont les deux, trois prochaines applications de la blockchain pour toi?
Le
Pas de
play to
pression.
earn.
No
Actuellement,
pressure.
là, ce qu'on est en train d'ouvrir, c'est vraiment les NFT. Et du coup, le play to earn, c'est-à-dire des jeux où les joueurs gagnent des NFT et ces NFT ont une valeur réelle. Donc, tu gagnes dans le jeu de la valeur réelle. Et on est vraiment en train de casser la barrière entre le monde réel et le monde du jeu vidéo.
Donc ça, c'est
Ce serait
Axie
vraiment
Infinity,
ça.
par exemple, dont tu parlais un peu plus
Par
tôt.
exemple. Et pour moi, Axie Infinity montre que c'est possible, mais ce sont des jeux qui ont été créés sur la blockchain à la base. Là, on attend qu'il y ait des vrais game producteurs qui se
Des
disent OK.
Electronic Arts, des Ubisoft qui y aillent.
Blizzard qui arrive et qui dit maintenant c'est World of Crypto, c'est parti quoi. Et
Mais
là, tu es
peut-être que
dans un
toi,
truc.
tu reviendras à tes. Finalement, tu boucleras la boucle, tu reviendras aux jeux vidéo.
Ah, le jour où Blizzard nous sort un jeu crypto, je pense que
Ah,
je
bah
vais
là,
mettre le nez
c'est.
dedans. Puis si vous voulez faire, pour ceux qui connaissent Hearthstone, un jeu de cartes où tu peux jouer à améliorer ton deck et tout, un Yu-Gi-Oh! Version Blizzard, ben, il existe Gods Unchained. Et globalement, Gods Unchained, c'est un Hearthstone, mais sur la blockchain. C'est-à-dire que si Hearthstone meurt, le jeu meurt, tu as toujours tes cartes dans ta ledger. Et un autre gars peut dire, écoutez, basé sur les mêmes cartes, je vais refaire un jeu où on peut s'affronter. Et donc là, t'imagines si dans World of Warcraft, ton personnage. Ben plus tu l'améliores, ben plus tu es fort dans League of Legends, parce que tu as le même personnage. Puis plus ton même personnage, quand tu es dans un monde virtuel, tu peux faire un jeu de fléchettes, tu as le même design que. Enfin, c'est un truc de fou. Par
Ouais,
contre, ouais,
c'est un nouveau monde.
là, les NFT, c'est autre chose. Si vous voulez vraiment vous matrixer, pour ceux qui ont vu Ready Player One, et vous faire un petit peu peur, mais en même temps vous rendre compte de la beauté qu'on peut faire avec tout ça, vous tapez qu'est-ce qu'un NFT sur Google. Je pense que la vidéo vous l'explique bien et vous allez vous régaler.
Top. On va s'arrêter là. Ça fait maintenant un petit moment qu'on discute. Merci beaucoup, Owen. C'était vraiment hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que Owen, t'as passé un bon moment.
J'ai passé un très bon moment.
Génial. Merci. Ton énergie est vraiment hyper positif. Enfin, c'est hyper agréable de parler avec toi parce qu'on sent que tu es passionné et on sent que tu as envie d'expliquer. Et je trouve ça top parce que voilà, la crypto, c'est complexe. Vous n'allez pas pouvoir tout comprendre le premier jour, mais ce n'est pas grave. Il faut y aller par étapes. Et la chaîne d'Owen, vraiment, donc la Hacher, c'est vraiment hyper intéressant. C'est en français. Et contrairement à beaucoup de gens, tu n'es pas là pour dire le Bitcoin va monter, va descendre, etc. Tu prends le temps d'expliquer la techno. C'est hyper didactique. Donc, allez jeter un œil. C'est hyper intéressant. Et passer puis, vraiment du temps sur la crypto. Quoi. C'est,
merci, vous allez, hein.
C'est un investissement, mais c'est aussi quelque chose d'intellectuellement très intéressant.
250 personnes pendant plus d'une heure 30. Merci à tous pour votre temps. C'est un plaisir d'avoir autant d'engouement et autant d'intérêt pour ce genre de talk. Donc, au plaisir. Merci à tous. Et merci à toi, Mounir, pour le micro et pour m'avoir écouté pendant cette petite heure.
Alors, le prochain talk, ça sera, on va repartir dans les marchés traditionnels. Hein. On va s'éloigner de la crypto. On va revenir dans les marchés actions. Et on a un invité vraiment incroyable pour le coup. Mais pour nous aider à le préparer, on a deux thématiques qu'on voudrait travailler. Donc, soit comment faire du stock picking, donc comment trouver les pépites de demain dans les marchés actions, soit les dividendes et comment utiliser les dividendes pour générer des revenus passifs, ce qu'on peut aussi faire en crypto d'ailleurs. C'est top. Parti. Merci beaucoup, Owen. Je vous rappelle que c'est Finari qui préparait ce talk. Finari, c'est une plateforme pour suivre ses cryptos, mais pas que, tout son patrimoine. On a une app, vous pouvez télécharger sur l'App Store. Et on a un site internet, c'est gratuit. Allez-y, inscrivez-vous, rejoignez notre communauté. Merci Owen, très bonne soirée et à très vite.
Un plaisir, merci à toi.
Bye bye.
Et voilà, cet épisode de Finari Talk est déjà terminé. Envie de continuer la conversation avec d'autres investisseurs et investisseuses ? Rejoignez-nous sur notre communauté, community.finari.com. Et pour rejoindre Finari, rendez-vous sur les stores et sur finari.com. Vous gagnerez du temps et de l'argent en passant à Finari Plus, notre version premium, qui vous permettra de profiter de toutes nos fonctionnalités, telles que le mode famille, l'analyse des frais ou encore le suivi des dividendes. On vous offre 7 jours pour découvrir Finari Plus. Alors à bientôt !